c'est ?
Dévoration.
Jean-Luc Rabanel, bonjour.
Cécile, bonjour.
Alors si cet entretien avait eu lieu il y a quelques années, j'aurais pu dire que vous arriviez directement de la campagne puisque vous aviez officié quelques années à la Chassagnette au Sambuc en Camargue. C'est là d'ailleurs qu'Omnivore vous a découvert dans les années 2000, début 2002, dans ces eaux-là.
Que les moins de 20 ans.
Qui n'est plus. Et on avait été séduit à Omnivore par cette auberge ouverte aux quatre vents où on pique-niquait le midi avec une dizaine de petits plats autour des légumes du jardin. Mais depuis 3 ans, vous avez changé d'optique. Vous êtes devenu urbain. Et votre atelier a ouvert en 2006 à Arles. Un lieu aux couleurs arlésiennes, noir, rouge et blanc, où vous servez ce que vous appelez une cuisine de rencontre, sans limite de forme, de couleur, d'assemblage et de contraste. Donc après la Chassagnette, c'était un virage qui était essentiel pour vous ?
Alors déjà, c'est très bien écrit. La phrase, donc, chère Cécile, puisque aujourd'hui on se vous voit, à mon avis, elle vient d'un journaliste qui a une belle plume. Je trouve que c'est très bien écrit. Maintenant, votre réflexion, chère Cécile, n'est pas tout à fait juste, puisqu'effectivement, donc, la Chassagnette, c'était un endroit donc qui m'a permis et que j'ai créé donc de toutes pièces, avec une cuisine, on va dire de plus actuelle, qui correspondait à une nouvelle génération de cuisiniers. Petit comeback, c'était la première fois où on voyait sur des tables donc de restaurants, et en l'occurrence sur une auberge, où on voyait donc créer une génération donc de cuisine déjà issue directement de nos jardins, puisqu'effectivement à cette époque-là donc nos jardiniers nous servaient donc au quotidien donc tous les légumes dont on avait besoin, et en plus sur une cuisine que j'avais posée, que j'avais réussi donc à mettre au niveau étoilé, puisque j'ai été le premier maître cuisinier donc au monde à être étoilé en bio. Et en même temps, troisième fait marquant de cette génération de cuisine, c'est la première fois que j'avais donné naissance donc à ce que j'appelais une cuisine de verrine. Les verrines n'existaient pas à l'époque. Donc pour servir une foultitude donc de petits mets, somme toute assez précis, assez minutés, d'une fraîcheur extrême, les premières verrines était né là-bas. D'ailleurs, beaucoup de magazines m'avaient consacré donc pas mal donc d'articles sur ça. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on va dire que tout ce qui se passe sous forme de verrine, je le considère et on le considère à l'heure actuelle comme un petit peu has-been, quoi. C'est vu, c'est démodé, etc.
Mais qu'est-ce que vous leur trouviez d'intéressant en verrine ?
C'était des nouveaux contenants. On faisait fi de tout ce qui était assiette, de tout ce qui était plat, et on amenait par plateau, par convive, une foultitude de petites verrines, des petits émincés de haricots verts avec de la coriandre, des éclats de noisettes, des émulsions de poivrons jaunes donc du jardin, donc au gingembre, avec une petite mousse donc de laitue, enfin, beaucoup beaucoup de couleurs, beaucoup de petites choses qui nous permettaient de manger en l'espace de 2 cuillerées et de passer donc d'un goût salé-salé, au salé-sucré amer-acide, au salé-croquant à sucré-salé-acide, et donc comme ça, de graviter autour de plein de goûts et de découvertes donc momentanées, qui étaient intéressantes.
Et la transparence, c'était important aussi de voir ce qu'on pouvait manger. Vous étiez aussi dans un cadre transparent avec vue sur le jardin.
Tout à fait. Vous avez bien analysé la chose. Le but du jeu, c'était, et toujours, donc cuisine ouverte sur Monsieur Tout-le-Monde, jardin ouvert sur Monsieur Tout-le-Monde, puisqu'avant de rentrer en cuisine, j'accompagnais donc mes clients et on faisait ensemble le choix donc de légumes qu'on allait manger. Donc imaginez, on se promenait donc dans une variété sur un jardin, sur une parcelle où il y avait une quarantaine de variétés de tomates. Et je disais que voilà, cette tomate va nous servir pour un coulis, celle-ci donc pour un tartare, celle-ci donc en poêlée, celle-ci en frites, celle-ci en carpaccio, etc. Donc c'était en même temps pédagogique mais très ludique pour le client. Donc vraiment une ouverture donc de simplicité, une communion avec le client, et on faisait fi, et c'était les premières tendances où on faisait fi donc de ce chef donc toqué, prétentieux qu'on pouvait rencontrer donc dans tous les établissements. On était vraiment à la portée et le collaborateur privilégié du client.
Avec donc, de grandes tablées où les gens s'affrontaient, enfin,
exactement,
se partageaient.
Exactement. Donc le but du jeu, c'était faire fi des tables séparées, mais au contraire réunir tout le monde autour de tables d'hôtes. Donc je crois que ça a été l'un des premiers, et je considérais, et les clients considéraient également dans cette cuisine, comme un pique-nique de luxe. Voilà, où effectivement on mangeait sur des très belles tables, hein, sans nappage, mais toujours à l'ombre, en bordure de jardin, etc. Donc ça a été une étape supplémentaire dans ma carrière donc professionnelle, où après avoir eu, et avant de venir donc sur ces terres camarguaises, où j'ai eu également mes restaurants qui ont été étoilés, mais sur des cuisines beaucoup plus classiques, j'ai été maître S-épices, j'ai fait beaucoup donc d'ouvrages et de recettes donc sur les foie gras. J'ai été étoilé sur un établissement où à l'époque on avait 17 recettes de foie gras. Les années venant, comme tout le monde, heureusement qu'on n'est pas pareil donc de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc l'atelier est tout simplement le reflet de la personnalité, de l'accomplissement d'un cuisinier qui a pratiqué depuis maintenant 27 ans sur beaucoup, beaucoup d'univers, que ce soit en France, à l'étranger, que ce soit sur des établissements étoilés, que ce soit sur des palaces, que ce soit sur des restaurants beaucoup plus modestes, où je suis également donc, consultant pour beaucoup d'établissements, un petit peu partout. L'atelier
ouvre en 2006, en fait. Hein. Vous l'avez acheté le 13 janvier. Ça a été inauguré le 13 mars.
Tout à fait.
Découvert le 13 avril.
Oui.
Et là, on est à Terroir 13. Finalement, c'était l'évidence de
C'est une évidence
avoir,
de vie. C'est une évidence de vie.
L'idée, enfin, c'était quoi l'idée par rapport à la chasse à Niette? Comment vous envisagiez les choses? Quel besoin vous aviez de changer d'environnement?
Alors, très facile. On finit juste sur le nombre 13, puisqu'en même temps, la ponctuation... Non voulu, bien sûr, puisque les choses s'analysent après, mais rien n'évolue. C'est un concours donc de strates, de pierres que l'on pose, et pas forcément un concours de circonstances. C'est une évidence, puisque uniquement à l'atelier, un seul menu, 13 touches de goût. Donc ça ne s'invente pas. 13 touches de goût, c'est la finalité à l'heure actuelle sur laquelle on peut balayer tout le panel gustatif, sensoriel, et tactile, qu'on est capable donc d'imaginer, de mémoriser et de se régaler. Donc voilà, l'atelier, 13 touches de goût. Alors l'atelier, c'est quoi? Bien, l'atelier, c'est l'antithèse d'un restaurant. C'est encore une nouvelle génération d'endroits, donc de recherche, et forcément pour créer une génération de nouvelles générations d'endroits, c'est tout simplement l'aboutissement et le cadeau de la vie. Et la vie m'a fait un cadeau énorme, je me suis offert aujourd'hui le luxe suprême, comme peut faire donc chaque sculpteur, chaque peintre, chaque artiste, de ne pas s'offrir un endroit où il va travailler, mais juste une galerie d'exposition de sa personne et de son art. Ce qui veut dire qu'à l'atelier, c'est uniquement 30 couverts, et sur ces 30 couverts, j'ai besoin donc de ces 30 couverts par service, uniquement pour leur faire voir qui je suis. Mon univers, mon environnement, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de choix.
Et pourquoi, encore une fois, le besoin d'être dans un environnement urbain? Vous êtes en plein cœur de rue des Carmes, en plein cœur d'Arles, dans une petite rue qui reste piétonne, mais c'est vraiment au cœur d'Arles. L'atelier, vous n'auriez pas pu l'envisager dans un endroit à la campagne, dans ce jardin que...
Non. Tous les plus beaux musées, toutes les plus grandes galeries se doivent d'être à proximité. Donc Arles est quand même une ville-village, et de un. Et de deux, vous avez remarqué que cette rue est une rue qui est à proximité du centre-ville. Mais pour venir, donc, que ce soit à l'atelier ou à côté, mon second établissement, il faut vraiment emprunter cette rue pour y aller. Donc ce n'est pas une rue piétonne où on va retrouver des magasins, des boutiques, etc. C'est vraiment une rue qui est consacrée, et j'ai eu la chance donc d'en faire sur cet espace un espace donc privilégié.
On va bientôt l'appeler la rue Rabanel, je crois, d'ailleurs.
Bah écoutez, lancez le message. Et puis, je crois qu'on est bien placé aujourd'hui dans l'enceinte donc, du Conseil Général, où éventuellement, si quelqu'un nous écoute, peut-être on peut prendre la décision d'aujourd'hui. Oui, non, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire fonctionner vraiment cet atelier et d'amener donc, au niveau de reconnaissance chaque forme artistique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être un des rares, nous sommes comme ça malheureusement très très peu donc, sur cette planète, à avoir une galerie d'expositions culinaires. Voilà.
Donc, attenant à l'atelier de Jean-Luc Rabanel, vous avez ouvert le bistrot à côté.
Oui.
Quelques années plus tard.
L'année suivante.
Comment les deux entités fonctionnent? En quoi elles sont différentes, l'atelier du bistrot à côté?
Alors, une évidence, une fois de plus. J'ouvre cet atelier donc 13 mars 2006 et je l'ouvre vraiment à titre très personnel, c'est vraiment l'endroit anti-commercial par excellence qui puisse exister. Nous sommes quatre. Nous ouvrons l'atelier, premier jour d'ouverture, et au quotidien, on est complet. On est complet, 30 couverts le midi, 30 couverts le soir, 30 couverts le midi. Les récompenses arrivent. Première étoile, seconde année, espoir de macaron, troisième année de macaron. Omnivore, donc, la première année, donc, me repère et me donne le titre d'extra créateur. Goemio me donne le titre donc, de chef de l'année donc, 2008. Donc, effectivement, il est très facile au quotidien de dire oui. Le plus difficile, c'est de dire non. Et notre quotidien, malheureusement, c'est de refuser. Refuser. Et d'expliquer aux gens que non, nous sommes complets, on n'a pas vocation.
Refuser du monde.
On n'a pas vocation à donner à manger aux gens. Bien sûr qu'on leur donne à manger, puisque c'est la phase ultime donc, de mon métier. Mais avant tout, on veut leur donner un endroit et un moment de partage, comme on fait aujourd'hui.
Vous n'avez pas envie d'être effectivement le bistrot du coin où devant lesquels les gens passent, ils se disent « Tiens, j'ai faim, je vais manger. »
Certainement pas. Sinon, je n'aurais pas réussi et je n'aurais pas passé 27 années de ma vie de passion pour en arriver tout simplement à ouvrir un restaurant.
Et ce qui est le cas, puisque, encore une fois, vous êtes en plein centre et les gens passent, ça défile en permanence. Vous refusez, en fait.
Oui,
vous leur dites
bien sûr, non. Bien sûr.
Si c'est pour manger juste un plat
bien sûr, ça ne fait pas.
Pas l'endroit.
D'où la nécessité de monter à 30 mètres à côté donc, de l'atelier, à côté, le bistrot. Donc à côté, le bistrot, c'est tout simplement un bistrot de chef. Alors un bistrot de chef, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la même philosophie, avec la même technologie, avec le même investissement, avec un mobilier sensible, avec les mêmes, sensiblement pareil, avec les mêmes équipes, avec les mêmes produits, comment arriver à donner, à faire plaisir à l'autre, continuer à faire plaisir à l'autre, en lui donnant tout simplement à manger.
Et moins cher.
Voilà. Et beaucoup moins cher, mais de se restaurer. Puisque à l'atelier, on vient pour se restaurer, mais on vient avant tout pour passer un moment donc d'amitié, un moment de partage, un moment de sympathie, un petit peu comme on se prépare pour aller, pour sortir, aller voir un concert ou une pièce de théâtre, etc. C'est un endroit un petit peu cocooné, un endroit un petit peu privilégié. Par contre, on a besoin de se restaurer au quotidien. Et donc voilà. Et moi, je suis un grand gourmand, j'ai besoin également de retrouver de temps en temps mes amis, mes copains, mes clients autour de la même cuisine que je fais. Alors à H, tout simplement, les équipes se partagent en deux. Et tous les produits qui ont été travaillés de concert commun le matin se trouvent partagés sur les deux établissements. Et là, on fait effectivement une cuisine avec un petit menu à 23 euros. On fait des plats entre 9 et 18 euros, mais qui permet à tout le monde de manger quand même une cuisine signée.
Au gastro, vous êtes à 45 le midi, 85 le soir.
Tout à fait.
Sans les vins.
Tout à fait. Donc, notre univers est un univers où effectivement, sur le bistrot... qui est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de 9h du matin jusqu'à ne plus d'heure. 9h du matin, pourquoi? Parce que j'ai créé également le petit déjeuner Camargue. Donc le petit déjeuner Camargue, comment je le considère? C'est lorsque toute l'année, à cause ou grâce à un travail, on se lève le matin, on mange un café ou un croissant ou une mauvaise biscotte. Pourquoi pas en vacances, ou lorsqu'on a le temps, ou lorsqu'on en a envie avec ses collaborateurs, se lever le matin et on fait fi du café. Et on commence par éventuellement une tortillas de patatas, une poêlée donc, de moules chipirones, un jambon pata negra, un petit verre de vin rouge, un gazpacho de tomates. Et c'est beaucoup plus intéressant de commencer une journée comme ça qu'avec un mauvais café croissant, et sensiblement pour le même prix. Donc le but du jeu, c'est de dire qu'il n'y a plus d'heure. Il n'y a plus d'heure pour manger, il y a juste donc des moments, et moi j'estime que chaque moment de la journée doit être privilégié. La vie est éphémère, les journées sont éphémères, le temps imparti à chacun est éphémère, donc le matin, à fond, le soir, à fond, il faut vivre, il faut vivre, il faut vivre. Et si la nourriture n'est pas l'essence même et la base même de la vie, alors je me suis planté sur toute ma vie.
En tout cas, c'est une philosophie que vous avez appliquée à la musique. Vous nous avez apporté quoi comme morceau, là, aujourd'hui ?
Ben, aujourd'hui, vu... ça, je ne devrais pas trop le dire, parce que peut-être ils m'ont repéré. Vu la vitesse à laquelle je suis venu donc, vous rejoindre, j'ai eu envie donc, de mettre un petit peu, donc, de, un petit peu de feu, un petit peu d'ambiance sur, le, sur la musique. Et il y a deux très grandes voix pour moi qui sont vraiment incontournables et qui me donnent vraiment énormément donc, de frissons et de sensations. Et la première, c'était tout simplement un vieux flashback sur le Parc des Princes en 93, Johnny Hallyday, Laurent Fabian, deux grandes voix qui font que... et puis sur quand même le, des paroles qui sont énormes. C'est la synthèse de cette chanson, c'est expliquer qu'on peut mourir et on peut mourir d'amour. Donc certains meurent d'amour, d'autres meurent de cuisiner, mais l'acte d'amour et l'acte de cuisine sont très très proches. Donc thème de la chanson énorme, voix énorme, pêche énorme, soleil énorme, Marseille énorme, rayon grenouille énorme. C'est l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Vas-y, la grenouille !
Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou bateau. Je tue celui qui fait un pas, dont je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs, blessé pour fusil braqué. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle.
Tu survivras de ton pastage. D'ailleurs, il faille se faire pendre. Le diable est passé de mon heure et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit,
Jean-Luc Rabanel, l'atelier, votre atelier, comment ça fonctionne ? Il n'y a pas de... j'ai mangé il n'y a pas très longtemps, ce sont des tables rectangulaires en espèce de ciment sans rouge, rouge brique, avec des chemins de table sans nappe. Et quelqu'un juste à côté râlait parce qu'il disait, bon, la cuisine très moderne, excellent, etc. Il disait, je comprends pas, on est dans un deux mac, il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas de nappe, ça ne va pas du tout.
Et oui, voilà la nouvelle donc, révolution donc, de la cuisine et de la haute gastronomie de demain. C'est de faire fi de tout le superflu et de faire une ouverture donc, de cette haute gastronomie à monsieur tout le monde. Avant, nos établissements en deux étoiles n'étaient que la panacée des palaces, des relais châteaux ou pléiades donc, de maîtres d'hôtel, de sommeliers, de voituriers, d'hôtesses de table pouvaient vous distiller et vous laisser imaginer qu'à chaque fois que vous aviez une poignée de main ou un sourire, ça vous coûtait un billet de 50 euros. Donc la finalité était quand même, parce que tout ce personnel, il faut le payer, la finalité était quand même, et se voyait de façon donc apparente, même si déguisée, donc sur vos traditions, donc à la fin. Aujourd'hui, donc sur l'atelier, qui est une galerie donc, de création donc, culinaire, pour faire payer donc, le juste prix, je rappelle que mon menu avec donc 13 plats, 45 euros, je suis très certainement à l'heure actuelle donc le déstablissement, le 2 étoiles.
Non, celui à 45, il n'est pas à 13 plats, si, le midi.
13 touches de goût, oui.
Et celui à 85
plats. 17 plats.
D'accord.
Pour le soir.
Le menu à 45 qui, en 13 plats qui n'est servi que le midi.
Qui n'est servi que le midi. Qui n'est servi que le midi. Mais même si on prend le grand menu donc à 85 euros est le prix moyen constaté d'un plat, je dis bien d'un plat à la carte sur un établissement de notre catégorie. Moi, pour ce prix-là, j'en envoie 17. Donc, il faut qu'effectivement, les gens qui viennent chez moi, ne viennent pas pour le paraître. Il est clair que si c'est juste pour venir pour le paraître, faire voir manteau, fourrure, bison, Ferrari, etc., ça va être un peu difficile, déjà, de se garer dans ma rue. Déjà, pour poser le vison,
Faire chaud.
Oui, ça risque à faire un petit peu chaud. Et puis, je n'ai pas des vestiaires qui font avec des coffres-forts. Le but du jeu, c'est d'aller directement à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est peut-être demain la valeur qui va prédominer et qui va prédominer, mais sur tous les marchés, quels qu'ils soient. Je crois qu'aujourd'hui, on est juste en face de stands où effectivement on défend donc l'agriculture donc raisonnée, l'agriculture bio, etc. Et c'est quoi ? C'est le même combat. Hein. C'est tout simplement de dire votre salade. Qu'est-ce que vous attendez d'une salade ? Qu'elle soit bonne ou qu'elle ait un joli package avec un joli petit panier, avec un joli petit filet, etc. Qu'elle soit bonne et qu'elle soit gorgée donc, de produits, de pesticides, etc., donc de choses dangereuses, ou vous avez envie de quelque chose de naturel. Donc de même, comme la communication, en définitive, on a besoin de communication directe, la cuisine, les gens veulent aller à l'essentiel. Et moi, je m'enorgueillis au quotidien de voir qu'il y a des jeunes, voire des très jeunes, qui, plutôt que d'aller passer une soirée... Et je n'ai rien contre des soirées passées en discothèque ou des soirées donc, dans des restaurants où on peut y aller plus pour des ambiances musicales. Mais viennent passer donc, des soirées absolument magnifiques dans mon restaurant et se trouvent juste à côté en train de côtoyer des monsieur tout le monde, des monsieur artistes, des monsieur hommes politiques, etc.
Donc un cadre qui ne fait plus forcément le restaurant, enfin qu'on soit comme on a envie de le concevoir, sans formalité, avec un service... relativement proche du client, enfin où les garçons de salle connaissent très bien le menu, arrivent à vous expliquer les choses assez simplement et en tout cas les connaissent. Ça fait partie tout ça de l'antithèse du restaurant ou du restaurant contemporain tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui.
Du restaurant de demain.
Voire d'aujourd'hui
vous. Voilà, nous avons besoin, et moi qui suis quand même un grand client avant tout, avant d'être un chef de cuisine, un cuisinier, on a besoin d'aller directement à l'essentiel. Et lorsqu'on est capable donc de faire des kilomètres, certains donc viennent de proximité, mais d'autres viennent de très très loin. La majorité de nos réservations viennent donc de Marseille, d'Aix, d'Avignon, de Montpellier, et une partie, un quart de la clientèle, vient de l'étranger. Ce qui veut dire que les gens viennent pour chercher quelque chose. Ils ont envie d'avoir des repères, mais ces repères sont que des repères donc de sincérité et d'amitié, et plus des repères commerciaux où un client est un pion. C'est pour ça qu'on ne peut pas se faire plus de couverts. Malgré la grosse équipe qu'il y a en cuisine, malgré l'équipe effective qu'il y a en salle, toujours entouré donc de grands professionnels, nous ce qu'on aime, c'est le partage, c'est l'échange. Et la finalité, c'est l'assiette qu'on envoie à ce client, qui est quasiment faite pour lui.
Et ça n'apparaît pas comme ça à première vue, mais vous imposez des horaires et c'est pas du tout anodin, c'est pas une question de forcément d'organisation de cuisine, enfin ça vous simplifie les choses, mais il y a aussi une volonté quand même de expliquer nous ce problème d'horaire, pourquoi vous contraignez les gens à ne pas venir après 21h ou 20h30.
Alors la contrainte elle est double, hein. Contraire les gens, effectivement dans le restaurant comme je vous l'expliquais, donc sur le bistrot à côté, c'est ouvert du matin ou jusqu'au petit matin, donc aucune limite d'heure. À 16h de l'après-midi, on peut se restaurer. L'atelier, c'est un endroit d'expression, c'est une galerie. Est-ce que vous voyez, vous, arriver et voir une pièce, quelle qu'elle soit, une pièce de théâtre, et arriver à 21h30, alors qu'elle a commencé à 21h. Donc vous dérangez juste 500 personnes, vous leur dites, attendez, vous arrêtez tout là, vous recommencez parce que je n'ai pas suivi le début. Je pense que pour avoir l'équivalence dans notre travail, c'est-à-dire le même sérieux, moi avec des équipes qui, pour les boulangers qui arrivent le matin à 6h30 le matin, et qui vont vous accompagner pendant tout le service, mes cuisiniers qui sont là donc depuis 8 heures et qui attendent et qui font la préparation uniquement pour 30 couverts à partir de midi pile. Lorsqu'on a 17 plats par personne à envoyer, je vous laisse faire la multiplication par 30 couverts, et tout ça donc sur 2h30, le temps de concentration qu'il faut. Donc pour que nous soyons donc de façon optimale, attentifs, performants, on peut avoir qu'une concentration pendant 2h30. Après, c'est que de la duplication, du duplicata, et après ça devient n'importe quoi. Si, après ça devient un restaurant.
Et une volonté aussi que les gens ne découvrent pas forcément à la table du voisin ce qu'ils vont manger, puisque vous imposez un menu unique.
Également, l'analyse que vous en faites, chère Cécile, elle est très fine. Le but du jeu, imaginez, vous arrivez, la table voisine, elle est déjà au dessert. Vous découvrez ce que vous allez manger une heure plus tard. C'est-à-dire après votre succession donc, de 10 plats, vos successions de 6 desserts, vous savez déjà ce que vous allez manger. Il me semble que l'émotion est donc dans des espaces comme les nôtres, donc à l'atelier, que ce soit dans une pièce de théâtre, que ce soit sur un match de foot. Lorsque l'OM joue, vous arrivez comme tout le monde, vous faites la queue, puis quand c'est l'heure, ben vous êtes assis, puis vous êtes attentif. Mais si vous arrivez une heure plus tard, juste pour avoir la diffusion, les commentaires donc, de votre voisin, quel intérêt ? Donc oui, nous sommes dans une démarche qui est vraiment une démarche qu'on essaie de faire au mieux, individuelle, personnelle pour chacun. Et le but du jeu, c'est que chacun ait la même impression et soit servi de même façon que la table voisine. Il n'y a pas de raison. Quel que soit son âge, quelle que soit sa condition sociale, s'il a réservé, il a le droit au même spectacle, il a le droit aux mêmes attentions.
Et sur ce menu unique, comment ça fonctionne ? Enfin, les gens, effectivement, se voient imposer les plats, enfin, vous leur apportez, il y a un service très très... très rapide, on n'a pas énormément de répit, mais que des petits plats qui se mangent en 2-3 bouchées.
Voilà.
Alors l'intérêt pour un chef aujourd'hui d'imposer le menu unique, autant du point de vue du client que de la cuisine elle-même.
L'intérêt, il est très simple. L'intérêt, c'est d'arriver à une précision extrême. Je me souviens, et il y a encore pléiade de restaurants qui font ça, avec des cartes, des entrées à choisir. Entrée froide, entrée tiède, entrée chaude, des poissons, des viandes, des fromages, des desserts, et après des menus. À l'heure actuelle, malgré mes 8 cuisiniers, malgré mes 4 serveurs, plus moi, plus le staff qui fait donc la plonge, les préparations, la gestion, la compta, etc., quand je vois le temps qu'il nous faut uniquement pour mettre en place un menu unique, et qu'on arrive tout juste à l'heure H, à être prêt, je me dis comment font les gens, ou comment je faisais, pour avoir dans un tiroir des rougets, pour avoir dans un autre tiroir des langoustines, pour avoir dans un quatrième tiroir des pigeons, des filets d'agneau, des filets de bœuf, des turbos, des pavés de bar, des morues, des cabillauds. C'est un grand n'importe quoi. Oui, l'efficacité et la précision, c'est qu'une efficacité et précision momentanée. On cueille, on écute, on cuit, on serre. Terminé. Après, tout le reste, c'est de la mise en place. La mise en place, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est du frigo. Ça veut dire c'est du reconditionnement. C'est-à-dire ne plus servir le produit initial qu'on a mis tant de temps à sélectionner, qu'on a mis tant de temps à trouver, tant de temps et tant de temps minutieux et d'amour à préparer. Tout ce qui est différé, ben, c'est un peu comme l'amour. Quand c'est réchauffé, c'est réchauffé. La cuisine, c'est pareil. Quand c'est réchauffé, il n'y a plus d'émotion. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je dis qu'il n'y a plus d'émotion. Et la cuisine de demain, et la cuisine que nous essayons de mettre en place à l'atelier, ce n'est que ça. Ma définition première, c'est une cuisine émotion. Pas de recettes, pas de fiches techniques, uniquement de la sincérité et un travail du quotidien, une implication du quotidien, une recherche du quotidien. Ce qui nous permet au quotidien d'avoir une latitude et un potentiel de création qui est absolument colossal. Donc on s'amuse, nos contraintes, de l'amusement, de l'émotion, du partage.
On se refait une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi comme deuxième morceau ?
Alors le second morceau, c'est un morceau qui est sorti il y a 7-8 ans de ça. C'est quelque chose qui me rappelle une musique que je mets en boucle sur les derniers concerts de Kai Jarrett, donc au restaurant. Qui me permet... Kai Jarrett, c'est un grand jazzman qui fait une musique en boucle. On peut le prendre à n'importe quel moment, On ne sait pas où est le début, on ne sait pas où est la fin. Mais on est toujours sur une même rythmique, quelque chose d'envoûtant. Il y a juste à se laisser porter par cette musique. Et même si on n'est pas initié, ça vous permet de comprendre, d'avoir une lisibilité et une écoute sur une musique qui est quand même une musique normalement pour initier. Et donc j'ai trouvé quelque chose d'un peu plus récent qui me faisait donc penser, enfin un peu plus actuel. Et donc c'est sur un groupe que j'aime beaucoup, qui est Moby, qui a révolutionné pas mal donc le tempo musical. Et Rushing notamment me fait beaucoup penser donc à une musique un peu plus jazzy de Keith Jarrett. Voilà. Donc Moby sur la musique de Rushing.
Jean-Luc Rabanel, quelques plats que j'ai pu manger à l'atelier il y a quelques temps qui ne sont pas forcément aujourd'hui encore les mêmes, puisque comme vous le disiez juste avant, la carte change de façon quotidienne, en tout cas très régulièrement. Un sorbet citron confit sur un petit thon rouge et un sablé avec des échalotes confites et du sésame, ou alors un bouillon d'étri aux olives noires et aux truffes, avec des fèves et des gambas, et puis on dessert beaucoup de légumes aussi. Le légume, c'est quand même, ça reste au centre de votre cuisine encore et toujours.
Oui, alors là aussi, on est sur un univers plus que légumes, je dirais végétal. Pourquoi végétal ? Nous avons quand même à la base un métier somme toute assez facile, puisque la cuisine, c'est quoi ? En deux mots, c'est pocher, frire, rôtir.
C'est cuire.
Donc en définitive, lorsqu'on a fait le tour des 7 viandes principales, lorsqu'on a fait le tour des 6 poissons principaux, on n'a pas besoin de passer 27 ans derrière un fourneau pour arriver donc à faire le même rouget au pistou ou tapenade que l'on mange de partout, Paris, Brest, Tokyo ou Monaco. Donc il s'est passé 27 ans de sa vie pour faire donc, ce que Monsieur Tout-le-Monde fait. Il n'y a aucun intérêt. En plus, ça devient quand même... ça deviendrait, et la cuisine à ce niveau-là ne devient qu'une répétition. Donc tout ce qui est répétitif, aucun intérêt. Sinon, on en fait un métier, on ouvre des restaurants. Et puis, à ce moment-là, on fait des cartes en place, et somme toute assez facile. Moi, ce qui m'intéresse dans l'univers du végétal, c'est qu'il y a... à l'heure actuelle, on travaille sur plus donc, de 120 sortes donc, de légumes, sur 127 espèces de légumes, et en sachant que chacune dispose à peu près entre 27 et 42 sortes. Basilic, 27 sortes. Artichaut, 42 sortes. Tomates, 36 sortes. Ça nous donne un potentiel gustatif et de préparation absolument extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Le second point, on sait quand même tous les bienfaits du monde et du règne végétal. Lorsque ce règne végétal, il est protégé. Lorsqu'il ne naît pas sur des substrats. Lorsqu'il ne naît pas donc sur des terres donc polluées. Lorsqu'il n'est pas poussé à force d'engrais, sous couvert donc de pesticides, etc. C'est quand même la base de la vie. Le végétal, c'est quand même la base de la vie. Oligo-éléments, minéraux, vitamines. Donc non seulement il y a une palette de goûts absolument extraordinaire, fantastique, et tout que l'on découvre donc au quotidien, lorsqu'on le multiplie par des préparations qu'on aurait pu préparer, donc une viande ou un poisson, par des braisages, par des rôtissages, par du cru, par des nouvelles techniques de cuisson, on s'aperçoit qu'en définitive, de rebond en rebond, on arrive donc sur de nouvelles sphères de goût. Et ça, c'est très important. Ce qui est intéressant, c'est le goût. Et ça, dans mon univers, c'est génial. Et comment arriver à chaque fois pousser plus loin la barrière pour faire découvrir le goût original du produit, ça c'est hyper intéressant.
Ce qui veut dire aussi faire tomber le carcan dans lequel le légume se doit d'être salé, et finalement peut-être la cuisine de demain c'est découvrir le légume en sucré ou
peu importe.
Le légume, enlever les barrières de toute façon, la cuisine, voilà. La jeune cuisine, c'est ça.
La cuisine de demain c'est... Vous savez, un filet de bœuf, même si c'est une pièce de bœuf d'un boucher extraordinaire. Une fois que vous avez mangé donc, le dixième de cette pièce de bœuf, vous allez trouver toujours le même linéaire de la première entame jusqu'à la fin. C'est bon, mais c'est bon. L'émotion reste linéaire. Moi, ce qui m'intéresse dans la cuisine, et grâce au monde du végétal, c'est de partir et de titiller plein de neurones, plein de petites lumières, plein de papilles donc sensitives, disent « Oh, là, c'est croquant. Oh là, là, c'est croquant, salé. Oh là, c'est croquant, croquant, dur, froid, salé et un peu une pointe d'acidité. » Et à chaque fois, on rajoute un élément de plus. Tiens, mais on dirait qu'il y a une pointe donc de douceâtre. Tiens, on dirait qu'il y a une pointe d'amertume. Et petit à petit, par des strates comme ça, on arrive à avoir la complexité, et je pèse mes mots, la complexité originale du monde végétal. C'est énorme. C'est un univers donc, de découverte, de goût qui n'en finira jamais.
Tant aussi, provoquer une façon de manger qui soit à la cuillère, à la fourchette, avec les mains. Finalement, aborder les choses par tous les moyens qui soient possibles et sans carcan, encore une fois.
Voilà, tout à fait. Remettre donc la cuisine, même si nous, on l'exprime de manière... entre guillemets, intellectuelle et artistique, si on déploie tous ces moyens, c'est pour remettre la cuisine à son sens premier. C'est donner l'émotion parfaite. L'émotion parfaite. La cuisine, c'est le seul art qui vous implique tous les sens que vous ayez. Donc, bien sûr, le goût, bien sûr, le nez, bien sûr, l'œil, bien sûr, le tactile, bien sûr, donc l'ouïe. C'est impressionnant. Et donc, c'est pour ça qu'on vit toujours, nous, dans des univers un peu parallèles, etc. Parce qu'on est toujours entouré de bonheur. Et donc, moi, ma mission, c'est de donner le bonheur à l'autre par rapport à mon univers. Et ça, c'est génial.
À propos d'émotion, vous nous avez apporté un objet. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il a une émotion particulière ?
Oui, un petit objet un peu amusant. Et je vous en donnerai aujourd'hui juste une de ces explications. Mais c'est tout simplement un couteau. Alors un couteau, bien sûr, il faut que ce soit un couteau de poche. Parce que le couteau, c'est l'outil principal dans mon univers, dans mon environnement. Je travaille pour ouvrir l'atelier, une petite anecdote. Pour me lancer ce nouveau défi, j'ai fait venir des couteaux donc du Japon, qui sont en céramique. Et des couteaux donc faits à très très peu d'exemplaires, dont un qui est un couteau de maître sushi. Et cette entreprise en fabrique donc 15 par an. Donc il faut 25 ans donc, à un sushiman pour devenir maître sushi. Donc le couteau, et pourquoi en céramique ? Parce que ce sont des objets qui n'abîment pas le légume, qui ne l'oxydent pas. Donc le couteau, c'est quelque chose que je me sers de façon récurrente. Et aujourd'hui, j'ai amené un couteau un peu plus vagabond, qui est un couteau de poche, qui est un couteau bien sûr pliable, qui est d'une très belle lame. Son manche est en olivier. Et c'est un couteau corse. Et on l'appelle le couteau vendetta. Et comprenne qui voudra comprendre.
Qui pourra. Vous avez publié aux éditions Actes Sud l'Atelier du Vivant, une leçon de cuisine, un livre de recettes et qui vous ressemble enfin, énormément. Des recettes, des choses qu'on peut manger chez vous et qui sont, pour une fois, de la part d'un chef, c'est assez remarquable, tout à fait réalisable. L'Atelier du Vivant chez Actes Sud, Jean-Luc Rabanel. Juste pour terminer, un petit questionnaire omnivorien. Votre premier souvenir gustatif ?
Premier souvenir gustatif, si c'est tout le tout premier, je m'en suis rappelé il n'y a que une vingtaine d'années de ça. Et c'est là où j'ai compris pourquoi je faisais la cuisine. C'était un goût très très simple. Dans nos campagnes, seulement une fois par semaine, le boulanger passait. Et c'était des énormes miches que ce boulanger donc nous laissait en bas donc du chemin. C'est des miches de 3 ou 4 kilos et ça devait nous faire donc la semaine. Il en laissait donc pour la famille 3 ou 4. Et ce pain-là, le matin, quand il est rassis, mon arrière-grand-mère, c'est elle qui s'occupait donc de mes petits déjeuners, elle me le faisait griller à la cheminée, où elle était assise dans cet entre-là. Et mon grand-père faisait le beurre. Un beurre baratté sur un pain grillé comme ça, si jamais la damnation, elle est à ce prix-là, je suis prêt à le refaire.
Qu'est-ce qui est bon ?
Qu'est-ce qui est beau ou bon ?
Bon.
Qu'est-ce qui est bon ? Ce qui est bon, c'est le regard de l'autre lorsqu'il a passé un bon moment. Que vous ayez passé, vous, tout ce que vous pouviez pour lui faire plaisir. Ça, c'est vraiment un moment très, très bon.
Qui vous a donné envie de faire la cuisine ?
Une évidence, j'ai baigné là-dedans. Lorsque le dimanche, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ses sœurs, mes tantes, lorsqu'elles sont en train de nous faire le repas dominical classique, juste le premier exemple, pour 2 kilos d'asperges blanches, chacune faisait sa mayonnaise différente. Vous imaginez, vous mangez 4 fois plus de mayonnaise que d'asperges. Donc forcément, quand il faut faire et être jury dans un cours de mayonnaise ou goûter tous les desserts, une fait de la tourtière, l'autre donc fait les crêpes flambées, l'autre fait le pain perdu, etc. Lorsqu'on a la chance au quotidien donc de manger donc de telles choses, c'est une évidence. C'est une évidence.
Quand vous ne cuisinez pas, qu'est-ce que vous faites ?
Je mange.
Le plat que vous n'arrivez jamais à faire ?
C'est pas que des plats que je n'arrive pas à faire. Il y a des plats que je me refuse de faire parce qu'ils ne correspondent pas à mon goût. Ils ne correspondent pas à mon palais. Et je ne suis pas amateur de choses qui sont trop fortes.
Fromage ou dessert ?
Les deux.
Le plat que vous auriez aimé inventer ?
Waouh ! Il y en a tellement. Il y en a tellement. Je suis tellement gourmand. Mais si je dois en choisir un, ça serait peut-être l'évidence par excellence, le gargouillou de Michel Bras.
Jean-Luc Rabanel, merci.
Cécile Co, merci.
Oh, qu'il est mignon ! Qu'il est mignon ! Qu'est-ce que c'est ?
Dévoration.